C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Bonjour à tous et bienvenue pour la 72e émission des boulons, l'émission des boulonnais. C'est Marianne au micro. Aujourd'hui, je me retrouve autour de la table avec Julien, Michel, Cathy, Thomas, Cédric à la technique, Fernande, Jean-Claude et Luc. Bonjour à tous.
Bonjour Marianne.
Oh là là, bonjour, quel Marianne. Joli cœur. Alors, je vais vous présenter la première partie de l'émission. On aura Cathy qui va nous faire un retour sur les champs chorales. Et puis Julien qui nous parlera d'un économiste. Mais tout de suite, on va commencer par Cathy. Alors Cathy, explique-nous un petit peu ce que tu as vécu pendant les champs chorales et ce que c'est les champs chorales, s'il te plaît.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la 26e représentation des champs chorales. C'est un concours de chant et de danse qui regroupe les différents hôpitaux CATTP et GEM du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Parti de Montmartin, nous avons fait route vers Saumin, où nous sommes arrivés vers 11h. Doté d'un amphithéâtre, il y avait de nombreux centres présents, Douai, Hasbrouck, Boulogne, Saumin et d'autres. D'abord les inscriptions. Nous devions nous présenter vers 13h30 et où les groupes se produisaient tout au long de l'après-midi. Et c'est là qu'a commencé cette grande aventure, avec les à côté, les répétitions et le stress. Mais tout s'est bien déroulé pour ma part. Je suis passée vers 14h30 avec un titre de Stone et Chardin, Made in Normandie. Les résultats ont été donnés vers 17h par Claude Saugnon, bénévole de santé mentale. Le jury était composé de psychiatres, infirmiers, de Saumin. Douai, c'était une magnifique journée où on a pu apprécier le talent des patients. Et moi, je suis repartie avec une belle coupe car j'ai fini deuxième des duos. Voilà.
Super, super.
Et t'as pas eu peur?
Oui.
J'étais stressée au début, alors Caroline a été dans les coulisses et puis elle nous a détendu quoi, à sa façon. Mais moi, je me rappelle d'un truc qui m'est resté gravé. J'étais derrière les coulisses et il y avait un monsieur qui lançait les groupes, le présentateur. Mais à l'intérieur des coulisses, il y avait un monsieur et il n'arrêtait pas de buter sur mon pied. Et tout le long de la chanson, quand je suis rentrée, j'arrivais pas à trouver mon tempo. Alors, je claquais du pied, mais ça faisait un drôle d'effet, quoi.
Est-ce que tu t'attendais à monter sur le podium?
Ah non, j'ai été surprise parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas remporter un souvenir de Saumin. Et ça m'a fait plaisir.
Vous étiez avec qui?
J'étais avec Christophe et Grégory et on a chanté le duo ensemble.
Non, mais le duo, vous n'étiez pas avec Christophe et Grégory?
Non, Christophe uniquement. La rencontre s'est bien passée, mais il était concentré et j'avais des moments d'inattention. Je regardais de son côté parce que je n'arrivais pas à rentrer dans le rythme. Alors, et j'avoue que ce n'était pas évident.
Moi, j'y suis allé. Bah, Luc, tu étais là aussi. Hein, et c'est vrai que c'est super, hein, les champs chorales. C'est vraiment une belle expérience. Mais c'était compliqué parce que vous n'aviez pas beaucoup de retours, hein, au niveau de la musique. C'était pas évident.
Le micro fonctionnait uniquement avec la clé USB.
Mais ils se sont vraiment bien débrouillés. Hein.
Ouais, c'était bien. Moi, j'ai trouvé par rapport au il y a 2 ans, il y avait un peu plus de monde. Donc l'après-midi, elle s'était déroulée vite par rapport à d'habitude. Et j'aurais eu envie de chanter encore une fois sur scène.
Et vous étiez mis à votre avantage aussi. Vous pouvez parler un petit peu de ça?
Oui, c'est vrai.
À mon avantage.
Au niveau
J'avais mis une robe. Oui, puis les costumes des danseurs, ils étaient récompensés. J'avais mis une jolie robe moutarde avec un chapeau. Ouais. Et mon petit sac avec moi pour faire allusion à la campagne.
Moi, je pense que ça a pesé aussi. Pour le podium.
C'est important.
Tout à fait.
Et Cathy, tu dis les danseurs, mais c'était une chanson ou une danse ?
Il y avait un concours de chant, duo, solo, et des concours de danse.
Voilà, il y a des, il y a des chorales, il y a des danseurs, en effet.
Ouais. Mais c'était
et
bien.
Ils jugent les costumes. Non, c'est vraiment une belle...
Bah,
d'ailleurs, ce serait à y aller l'année prochaine, pourquoi pas, avec le groupe des Boulons.
Oui, pour faire un concours de danse avec Caroline.
On pourrait, faire une émission là-bas.
Bah, éventuellement, il faudrait voir avec Claude. Ouais. Si Claude Dognon, il est OK, pourquoi
pas. Tout à fait.
Ça pourrait être sympa.
Ouais, d'ailleurs, il y avait... Il y avait... L'hôpital de Boulogne était représenté par des Boulonnais. Et j'avoue qu'ils se sont dans bien des...
Ils ont eu un prix.
Bien débrouillés.
Oui, ils se sont bien
débrouillés.
Hein,
tout à fait.
Ouais. Les costumes étaient beaux. Mais c'était chouette, quoi. Comme à refaire.
Ouais, écoute, on le refera peut-être avec toi l'année prochaine.
Ah bah ouais, pourquoi
génial.
Pas.
Merci Cathy pour ton témoignage. C'était très intéressant. On va passer à... une toute autre rubrique sur une autre tonalité.
Sans transition d'ailleurs.
Sans aucune transition, vous allez voir. Ça a été préparé pendant toute la nuit par Julien, qui s'est bien pris la tête pour se rappeler ses souvenirs de terminale, n'est-ce pas mon cher Julien? Tu vas nous parler d'un économiste, c'est bien ça?
Eh oui, je vais parler de John Maynard Keynes. C'est un Anglais, donc il a écrit notamment la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie en 1936. C'est un ouvrage qui fait suite au crash boursier de 1929 et qui propose des solutions pour remettre l'économie des pays sur pied pendant la Grande Dépression. Avant les théories keynésiennes et jusque 39-45, c'était les théories néoclassiques qui étaient utilisées. Le marché devait s'auto-réguler sans intervention régulatrice. Donc l'État n'intervenait pas. Pendant la Grande Dépression et après la guerre, le marché a cessé de s'auto-réguler et ne permettait plus le plein emploi. Les consommateurs, pendant la guerre, ont réduit fortement leurs dépenses, car leur avenir était incertain. Moins de consommation entraînant moins d'investissement et plus de chômage, il a fallu chercher des solutions. C'est à ce moment que les gouvernements ont pensé changer de modèle économique au profit des théories keynésiennes. Le keynésianisme, donc, qui reprend les théories keynésiennes, change des anciennes théories car il permet le rôle actif de l'État dans la relance économique d'un pays. Il restera très populaire jusque début 70 où il n'a pas su résoudre les problèmes d'inflation qui étaient là à ce moment-là, quoi. Alors, entre autres, Keynes, il a noté trois phénomènes. Le premier, c'est que l'économie est influencée par les décisions des secteurs publics qui régulent l'économie ainsi que par les secteurs privés qui la stimulent. En deux, les revenus mettent du temps à s'adapter aux variations de l'offre et de la demande, ce qui explique pénurie et gros stocks non écoulés. Et en trois, les variations de la demande impactent la production et l'emploi aussi, car par exemple, moins de demande incite à moins produire et à licencier. Pour influencer la demande, il pense que l'État doit relancer la consommation et l'investissement particulièrement. L'investissement en finançant des projets d'envergure nationale comme la création de chemins de fer, de barrages ou de routes, par exemple, et en baissant les taux d'intérêt. Il faut néanmoins surveiller l'augmentation de la masse monétaire car l'afflux de liquidités peut ne pas rétablir l'équilibre de l'économie. Et pour relancer la consommation, parce que là on a vu l'investissement, il préconise une politique de redistribution pour que les ménages les plus pauvres puissent consommer davantage. L'État peut augmenter aussi sa propre consommation. Alors par comment, je sais pas trop, j'ai lu ça. Selon lui, en période de crise, l'État doit intervenir pour booster l'économie, et en période de forte inflation, il doit la freiner. On appelle cela une politique anticyclique. Lorsque les temps sont difficiles, on réduit les impôts, pour résumer, on réduit les impôts et on augmente les dépenses pour aider les entreprises et les consommateurs. Et en période faste, on diminue les dépenses et on relève les impôts. C'était à peu près tout. Et si vous avez des questions, je vous écoute.
Moi, ça me ramène à mes trois années de terminale économique et sociale dans ma jeunesse. C'est super sympa.
J'ai vachement bien aimé.
Il y avait juste, moi aussi, j'adorais Keynes. Mais il y avait juste un truc, je crois, que par rapport à ce que tu disais, que tu savais pas comment l'État relancer la consommation. Mais j'ai peur de m'engager là-dedans puis de dire une connerie. Mais il me semble que c'était en appuyant le service public, en fait. Il partait vraiment de l'idée que le service public régulait le marché. Donc à partir du moment où il injectait de l'argent au niveau public et il donnait de l'argent aux gens pour qu'ils puissent consommer. Et ben ça obligeait le service privé à être compétitif, d'après mes souvenirs. Hein.
D'accord.
Ça ressemble à ce qui se passe
en ce moment, quoi, avec la pénurie de carburant.
Pas trop, ils sont pas trop ça.
Ils ont vu au niveau de la sécurité sociale aussi, il y a un décret qui est passé au Sénat pour les ménages. J'ai écouté la radio et ils en parlaient.
Par rapport à quoi aussi, Cathy ?
Par rapport à l'inflation.
Ouais, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Tu te souviens ?
Je ne sais pas exactement.
Je ne peux pas non plus vous aider.
Voilà, oui, mais le seul truc que j'ai pas compris dans tout ça, c'est comment l'État il peut augmenter sa propre consommation. C'est-à-dire, j'ai pas compris.
Les services publics. En fait, en augmentant les dépenses du service public pour lui permettre d'avoir plus de poids dans la balance publique-privée, à mon avis.
Ah oui, donc j'ai dit ça deux fois, du coup.
Écoute, une grande économiste à ta droite qui a fait trois terminales, donc il y a le temps d'étudier le programme. Voilà.
Vous l'avez connu d'ailleurs, monsieur Keynes.
Je l'ai bien connu quand j'étais en terminale, c'était mon prof. Alors tout de suite, on va marquer une pause musicale avec une chanson d'Élodie Frégé qui s'appelle La ceinture.
Non, pas sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma langue a le goût de ta vertu, de ton honneur perdu. Non, pas sur les lèvres, même si j'en rêve, même si je tremble. Et bien que mon cœur soit nu, mon âme est revêtue de pudeur et d'impudence, sans te faire offense. Mieux ne vaut pas tenter sa chance, rien ne dure au-dessus de la ceinture. Non, pas sur la bouche, même sous la douche, même si c'est dur, je te mordrai, c'est promis. Tous les coups sont permis, non pas sur les lèvres, même pas en rêve, à 100 pour sûr. Où tu mangeras ton pain gris, mon cœur est endurci. Ne tire pas sur l'ambulance, garde la potence. Plus rien n'a plus d'importance, rien ne dure au-dessus de la ceinture. Je sais, je touche le fond du lac. Le temps des cerises est mort. Le diable est dans le corps. Non, pas sur les lèvres. Non, c'est pas mièvre, c'est pas le trac. Mais je préfère me donner cru, sans revers ni refus. Rendons-nous à l'évidence, tout est cuit d'avance. Nous ne vaut pas tenter sa chance. Rien ne dure au-dessus de la ceinture. Non, pas sur la bouche, c'est louche, puisque ma peau a l'odeur de ton odeur. Au dehors, il fait chaud. Non, pas sur les lèvres, jamais de trêve et pas d'assaut. Bonheur est dans la pente, entre le sol et le ventre, entre l'oubli et l'oubli. Bel oiseau du paradis, joue plutôt, je t'interdis. Rien ne dure au-dessus de la ceinture.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
De retour pour la deuxième partie de notre 72e émission, l'émission des boulonnés. Luc, pendant la pause musicale, me faisait justement remarquer qu'il adorait la partie basse de cette chanson et qu'il avait d'ailleurs été lui-même un grand joueur de basse pendant ses années terminales. C'est rigolo, ça me permet de faire une transition avec Michel qui va nous parler maintenant d'un retraité, un nouveau retraité.
Oui, un nouveau retraité, c'est ça. Donc je reprends donc ma rubrique aujourd'hui, ma rubrique sportive. Le sujet que je vous propose est dédié à Roger, parce qu'on dit Roger, Roger Federer. Roger. Je tenais donc à rendre hommage à ce grand sportif qui vient de mettre un terme à sa prodigieuse carrière, c'est-à-dire le tennisman suisse Roger Federer. Je voue un grand respect à ce sportif qui a eu une longévité impressionnante sur le circuit professionnel, soit 24 ans de carrière au plus haut niveau, ce qui n'est pas rien. Alors tous les adversaires qu'il a rencontrés ont reconnu qu'il savait tout faire sur un court de tennis, varier son jeu, la façon dont il touchait la balle, son service volé, sa façon de défendre, son slice, enfin le slice c'est un coup au tennis, je ne vais pas vous en dire plus, et un coup imparable. Il avait un coup droit de dingue, disait Steve Darcis, le Belge, qu'il a rencontré plusieurs fois. Quand il avait la balle devant lui, on ne la revoyait plus, ajoutait-il. C'était de plus pour moi un joueur très élégant. Il avait une classe naturelle, même en dehors du court, car il était resté humble, malgré le palmarès qu'il avait, et respectueux envers ses adversaires, comme en témoigne le joueur belge nommé Cetus, Steve Darcis. Federer est resté au total 310 semaines à la première place de l'ATP, ce qui est assez impressionnant. Alors, je vais vous embêter avec quelques chiffres pour résumer sa carrière, mais c'est quand même ça reflète un peu le talent qu'il avait. Alors, 19, c'est l'âge où Roger a gagné son premier tournoi à Milan. 21, c'est le Suisse s'est adjugé 21 tournois sans perdre le moindre set. 82%, c'est le pourcentage de victoire sur les 1526 matchs qu'il a disputés, soit 1251 victoires. Alors, je précise en plus qu'il a gagné 224 matchs en double. 20, c'est le nombre de titres en Grand Chelem qu'il a remporté. Les titres de Grand Chelem, c'est Roland-Garros, Wimbledon, Flushing Meadows. Seul Nadal a fait mieux, 22, et Djokovic, 21. Alors, là, c'est un chiffre encore plus important, c'est 11 478, c'est le nombre d'aces. Un ace, c'est quand il engage la balle et puis que le joueur adverse ne peut pas la renvoyer. Donc, il en a comptabilisé 11 478, ce qui en fait le troisième joueur le plus performant dans ce domaine depuis que l'ATP recense cette statistique. Alors, il a gagné son premier titre en Grand Chelem à Wimbledon en 2003 contre Marc Philippoussis. C'était son premier titre majeur. Et il a eu 11 trophées majeurs entre 2004 et 2007. Il a gagné 4 titres de Wimbledon en suivant. C'était le 10 juillet 2006. C'était son quatrième Wimbledon. Voilà, il a conclu sa carrière par un dernier match de gala le vendredi 23 septembre à l'Or Arena de Londres avec Rafael Nadal en exhibition. Nena de Djokovic, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce fabuleux joueur qui était vraiment incomparable.
D'accord, mais pour qu'un ace soit compté dans les 11 400, je ne sais plus, 78,
oui.
Eh ben, il faut que ce soit un match, comment en fait, il faut que ce soit un match forcément officiel.
Ah, officiel, oui.
Mais dans quel concours, quoi? Dans quel championnat?
Dans tous les championnats,
dans
en fait.
Dans tous les championnats, oui, oui, dans tous les championnats. Que ce soit un titre du Grand Chelem, des tournois mineurs, enfin, il y a les tournois 1000, il y a les tournois 500, il y a les tournois... enfin, il y a plusieurs degrés de tournois. Voilà.
D'accord, merci.
Et ce qu'il a fait, c'était vraiment extraordinaire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi cette performance.
Ok.
J'ai une petite question. Ouais. C'est votre joueur préféré, Michel, ou alors vous en avez un autre?
J'aime bien Nadal aussi. Mais mon préféré, c'était Federer, puisqu'il est... Il a jamais cassé une raquette sur un court, il a jamais fait preuve d'énervement. Et quand ça n'allait pas, il prenait sur lui et il arrivait à redresser la situation. Voilà.
Son côté fair play qui vous plaisait.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
Alors à propos de fair play pour la transition suivante, ça va être mon jour de transition aujourd'hui. Thomas, t'es prêt ?
Je jouais juste, ouais.
Allez.
Bonjour à tous, je vais vous parler de Faora Sanders, un saxophoniste de jazz américain qui est décédé en septembre dernier. Donc on va écouter, le morceau Astral Traveling, Voyage Astral, qui correspond bien à sa philosophie ésotérique. Donc Faora Sanders, comme je viens de le dire, est un saxophoniste de ténor, en particulier un gros saxophone de jazz américain. Il est né le 13 octobre 1940 à Little Rock, dans l'état de l'Arkansas, et il vient de mourir là en septembre dernier, le 24 septembre dernier, à Los Angeles, en Californie. Donc il a vécu quand même jusqu'à 81 ans. Il était d'un milieu assez favorisé, car ses parents étaient profs de musique, donc il a un petit peu été prédestiné dès le départ. Et en fait, c'est au début des années 60 qu'il commence à être connu sur la scène jazz d'Oakland. C'est une ville en Californie. En 62, poussé par ce succès, il décide de s'installer à New York, hein, le creuset des plus grands joueurs de jazz. Et il joue avec l'orchestra de Sun Ra. Sun Ra, c'est un pianiste assez reconnu aussi. Et connu surtout pour ses compositions et performances phénoménales. Et il développe à ce moment-là une étrange philosophie cosmique. Il prêche cette philosophie cosmique. C'est très très, très très spécial. C'est entre la science-fiction, la religion, les croyances occultes. Il développe ça parallèlement à Sun Ra. En 65, il joue dans le groupe de John Coltrane. Il connaît donc les débuts du free jazz. C'est surtout dans ce genre qu'il va s'illustrer. Il fera également des collaborations avec le vocaliste Leon Thomas sur des choses assez, assez intéressantes, souvent minimalistes, enfin, toujours très originales. Leon Thomas qui pratiquera le yodeling, c'est le yodel comme les chants, vous savez, alsaciens, les chants des alpages mêlés à des improvisations sur des rythmes de jazz free, détachés d'une structure rigoureuse, c'est typiquement free ça, sur des textes religieux, spirituels, mystiques, en particulier en lien avec l'islam. Et donc il connaîtra une attirance et un retour vers la musique africaine, parce que c'est un noir. Faora Sanders, c'est un saxophoniste noir américain. Et il est l'un des inventeurs de l'ethno-jazz. Avant le boom de l'ethno-jazz dans les années 90, qu'on appelle dans les années 90 la world music, il invente déjà dans les années 70-80 l'ethno-jazz, qui est un mélange de musique du monde et de jazz. Alors il y a d'autres personnes qui s'y sont illustrées, comme Don Cherry, Yann Garbarek, Manu Dibango, Myriam Makeba. Donc, en tant que leader, Faora Sanders réalisera 29 albums de 63, de 1963 à 2005. Il jouera dans 9 albums avec John Coltrane de 65 à 67, avec Don Cherry, Michael Mantler, Alice Coltrane, Kenny Garrett. Avec le groupe Arcana, il réalise un album en 97. Et son dernier album, en fait, est assez récent. Il s'appelait Promises en 2021 avec un artiste électro qui s'appelait Floating Point et The London Symphony Orchestra, l'orchestre symphonique de Londres. Et c'est un album assez, assez ambiante, en fait, très minimaliste, planant, comme il a souvent fait. Mais là, quelque chose teinté de beaucoup plus contemporain. Voilà. Et donc, il décède en 2022, le 24 septembre, paix à son âme. Je vous laisse écouter.
Mais... apparemment, tu as l'air d'être passionné de musique, Thomas. Mais est-ce que tu achètes ?
Oui, j'essaye de continuer malgré la musique virtuelle. Je continue à acheter des CD. Moi, depuis que je suis abonné à Spotify, je ne vais pas en faire la pub. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, on trouve énormément de
choses.
On trouve beaucoup
de choses. Tu t'inspires sur Internet.
Oui, moi aussi. Oui. Puis après, bon, c'est en discutant avec les musiciens aussi. Il y a d'autres musiciens souvent qui sont...
les boîtes de dialogue sur les réseaux.
Non, mais même avec des amis okay. qui mettent
vous partagez,
au courant
de trucs.
Ouais, voilà.
C'est bien.
Allez, on écoute.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Et bien de retour pour notre 72e émission, l'émission des Boulonnais. Nous accueillons tout de suite notre chroniqueur Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, tu vas nous parler de deux sujets de sport aujourd'hui.
Bonjour, je vais vous présenter le PSG et Mbappé.
On t'écoute.
Mbappé a 23 ans et attaquant du Paris Saint-Germain cette saison. Il a joué 16 matchs et marqué 14 buts et joué 4 matchs en Ligue des Champions et marqué 4 buts. Il a 58 sélections en équipe de France et marqué 28 buts. Il est né le 20 décembre 1998 à Paris 19e. Mbappé est le meilleur buteur 2022 avec 28 buts et le meilleur passeur 2022 avec 17 passes décisives. Mbappé a marqué 32 buts en Ligue des Champions. Mbappé est le meilleur buteur et passeur de la Ligue des Champions 2021. Il était à Monaco FC du 07-2013 au 08-2017. Il est au PSG du 09-2017 à aujourd'hui. Il est champion d'Europe U19 en 2016, il a gagné la Coupe du Monde 2018, il a gagné la Ligue des Nations 2021, il est champion de France 2017 avec Monaco, il est champion de France 2018, 2019, 2020, 2022 avec le PSG. L'effectif du PSG est constitué comme gardien de Navas qui a 35 ans et qui a joué 2 matchs et fait 7 arrêts, de Donnarumma qui a 23 ans et qui a joué 18 matchs et fait 55 arrêts, comme défenseur de Marquinhos, qui a 28 ans, qui a joué 19 matchs et marqué un but. De Ramos, qui a 36 ans, qui a joué 19 matchs et marqué 2 buts. De Danilo Pereira, qui a 31 ans, qui a joué 16 matchs. De Kimpembe, qui a 27 ans, qui a joué 11 matchs. De Mukele, qui a 24 ans, qui a joué 12 matchs et fait une passe décisive, comme milieu. De Neymar, qui a 30 ans, qui a joué 18 matchs, qui a marqué 13 buts et fait 10 passes décisives. De Verratti, qui a 29 ans, et joué 16 matchs et fait une passe décisive. De Hakimi, qui a 23 ans, et qui a joué 18 matchs et marqué 2 buts et fait 3 passes décisives. De Bernat, qui a 29 ans, qui a joué 14 matchs et marqué 1 but et fait 2 passes décisives. De Sarabia, qui a 30 ans, qui a joué 13 matchs et marqué 2 buts. De Mendes, qui a 20 ans, qui a joué 16 matchs et marqué 2 buts et fait 3 passes décisives. De Soler, qui a 25 ans et qui a joué 5 matchs. De Vitinha, qui a 22 ans, qui a joué 18 matchs et fait une passe décisive. De Sanchez, qui a 25 ans, qui a joué 7 matchs et marqué un but. De Ruiz, qui a 26 ans, qui a joué 7 matchs. Comme attaquant, de Mbappé, qui a 23 ans, qui a joué 7 matchs et marqué 14 buts. De Messi, qui a 35 ans, qui a joué 17 matchs et marqué 10 buts et fait 9 passes décisives. De Etiquité, qui a joué 7 matchs. L'entraîneur du PSG, Galtier, qui a 56 ans, qui a 11 victoires et 4 nuls. L'équipe type du PSG, gardien Donnarumma, défenseur Danilo Pereira, Marquinhos, Sergio Ramos, milieu Nuno Mendes, Verratti, Vitinha, Hakimi, attaquant Neymar, Messi, Mbappé. Résultat Ligue des Champions. Paris Saint-Germain 2, Juventus 1, Maccabi Haïfa 1, PSG 3, Benfica 1, PSG 1, but de Messi, PSG 1, Benfica 1, but de Mbappé. Le 25 octobre de 21h, PSG Maccabi Haïfa. Le 2 novembre 21h, Juventus de Turin, PSG. Classement. Le PSG en Ligue des Champions à 8 points. Le Benfica en Ligue des Champions à 8 points. La Juventus en Ligue des Champions à 3 points. Le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions à 3 points.
Eh bien,
oui, ah, ouais. On voit que tu es passionné.
Ouais. Je voulais te demander, Jean-Claude, est-ce que tu penses que le PSG peut gagner la Ligue des Champions cette année ?
Ça va être dur parce qu'il y a des grosses équipes.
Ouais,
comme Manchester City.
Oui, Manchester City.
Avec Haaland.
Oui, avec Haaland, il est très bon, lui. Hein.
Ouais.
Il marque un nombre de buts impressionnant. Hein.
Par match, il marque beaucoup de buts. Ouais.
Et je voulais te demander aussi. Ils ont deux très bons goals, Navas et Donnarumma. Lequel tu préfères, toi ? T'as pas de préférence.
Donnarumma, c'est l'avenir. Il est plus jeune.
Navas, il est bon quand même.
Navas, il a quand même.
Oui, il a quand même plus de 30
Navas,
ans.
Navas, il a 35 ans.
35 ans, oui.
Donc, s'il est un gardien, il peut jouer un peu plus longtemps que.
Ouais, un peu plus longtemps.
Un joueur de.
Mais moi, j'aime bien Navas. Donnarumma, il fait des boulettes par moment.
Disons que Navas, il a gagné la Ligue des Champions plusieurs fois avec le Real.
Avec le Real, exactement.
Mais Donnarumma, c'est l'avenir.
C'est l'avenir.
C'est pour ça qu'ils l'ont recruté.
Oui, c'est vrai. Mais tout ça, ça fait que.
Donnarumma, il n'a que 23
ans. Il n'y a pas beaucoup de Français dans l'équipe. À part Mbappé et Kimpembe, il n'y a que.
Et moi, je voulais savoir, Jean-Claude, comment ça se passe pour recruter les joueurs au niveau national ?
Et Mbappé, il a été recruté 180 millions à Monaco.
Mais les contrats types, quoi. Tu sais, quand...
C'est de l'argent, ouais, c'est financier, je pense.
Ah ouais.
Il a beaucoup d'argent sur les recrutements. Les recrutements coûtent très cher.
Oui, puis en plus, ils ont un gros budget avec les Qataris, ils ont un gros budget, hein, le PSG. Ah ouais,
ils ont déjà 100 millions que verse le Qatari pour faire de la pub au Qatar.
Hein, pour faire la comparaison, Lens, ils ne pourraient pas se payer les joueurs que Paris se paye.
Non, mais Lens, ils ont un budget, ils ont je ne sais plus combien le... 16e budget.
16e, ouais.
16e budget. Et puis, que Paris, ils ont le premier.
Et ils arrivent quand même à bien se classer dans ça. Ça fait 2 années qu'ils font 7e, c'est bien. Ah ouais, ouais. Avec le budget qu'ils ont.
Et là, ils sont bien placés, ils sont 4e.
Oui, ils sont bien placés. Ouais. Ils ont perdu à Lille, malheureusement. Mais
bon. Enfin, ils n'ont pas, pas les stars du PSG.
Je crois qu'on vient de trouver les deux présentateurs des prochains matchs de la Coupe du Monde du Qatar. Notre Jean-Mimi.
Non, bah, voilà,
ils sont prêts, ils sont taqués.
Ils n'ont pas effectué PSG avec Mbappé et puis Mbappé, Neymar et Messi.
Mbappé, il est un peu personnel par moment, je trouve.
Tout à fait, Michel.
Au lieu de faire la passe, il
c'est
veut
pas
y
tout
aller
à fait Thierry, seul. C'est tout à fait Michel.
Mais c'est un très bon joueur. Hein. On peut pas lui retirer ça. Hein. C'est un des meilleurs joueurs du monde, c'est sûr.
Nous, on va aller boire un café. Hein, ouais. On va vous laisser.
Non.
C'est super intéressant. Enfin, j'ai pas tout compris, mais
non, c'est bien.
C'est bien de pouvoir en débattre. Merci les garçons.
Merci Jean-Claude, c'était votre première. Puisque vous nous avez rejoint.
C'est bien débrouillé.
C'est bien. Ouais. J'espère que. Comment vous vous sentez pour cette première chronique? Super, tant mieux. Hein.
Merci d'être emparé de notre micro et bienvenue parmi nous.
Exactement. Merci.
Fernande, elle a un cadeau pour toi, dis donc. Ah ouais?
Oui.
Allez, on t'écoute.
Je vais mettre une chanson de Maître Gims, Bella.
Pas humaine, le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt en démarrer, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Cette femme était nommée Belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. En blanc comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit.
Les gens me disaient, méfie-toi cette fille-là.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
De retour pour notre 72e émission, toujours l'émission des boulons, l'émission des boulonnés. Notre Bella Fernanda va nous proposer aujourd'hui la recette de la moussaka.
Poireau.
Sucré.
Cassonade.
Chocolat.
Confiture.
T'es là.
La recette du jour. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la recette de la moussaka. Il faut des les ingrédients. Il faut 250 g de viande de bœuf haché. Il faut 4 aubergines, 4 tomates, un oignon, de l'ail, du mitaine d'ail, 50 g de fromage râpé. La ciboulette au pif, l'huile d'olive. Ensuite, il faut, c'est pour 4 personnes. Dans un premier temps, il faut prendre une poêle, mettre 3 cuillères à soupe d'huile, faire revenir l'hachis de bœuf plus oignon émincé, l'ail, un petit morceau, et les tomates épluchées découpées en petits morceaux. Et la ciboulette, mettre sel, poivre, faire revenir le tout. Ensuite, il faut laisser refroidir un peu. Dans un plat à gratin, il faut mettre les aubergines en coupant en fines lamelles, les disposer au fond du plat du à gratin. Mettre la préparation, l'hachis de bœuf, la préparation à la poêle. Ensuite, il faut mettre une couche, après des aubergines, après une couche d'aubergine, on remet une couche d'aubergine. Ensuite, pour finir, faut mettre faire la béchamel.
On fait comment la béchamel?
Ben moi, je mets du beurre dans une casserole, je fais fondre du beurre, la farine, je le mélange quand ça fait un roux. Après, je mets du lait en fur et à mesure, je mélange bien jusqu'à temps que la sauce ça s'épaissit. Je mets du sel, poivre et de la muscade. Ensuite, on met la béchamel au-dessus, pour terminer, au-dessus des aubergines. Puis pour finir, on met du râpé au-dessus et mettre des noisettes de beurre. Okay. Et puis mettre au four pendant 35 minutes.
Ça se mange chaud.
Oui.
Ok.
Et on rajoute pas de ciboulette au niveau de...
Ah oui, j'ai dit que j'ai mis la ciboulette dans
la... On la met au début.
On met au début avec la préparation, ciboulette... Ben on met
moi j'aime
soit
pas
en branche ou soit en épices.
Il n'y a pas d'autres épices qu'on peut mettre à part ça.
Je ne sais pas, je n'ai jamais fait.
Tu n'as jamais fait autre chose.
C'est pour ça. C'est
mais vous allez la faire aussi, là?
Oui, je vais la faire mercredi prochain avec Pépé Luc.
D'accord, ok.
Avec des, avec des gaufres légeoises.
Ah oui, ça vous savez faire par contre. Hein?
Alors, bon, puis je vais le refaire chez moi.
D'accord, parfait. Alors moi j'ai une petite variante pour la... Pour la béchamel, parce que...
Oui, il m'avait dit, ouais. Tu m'as dit... Tu m'as dit, il faut mettre un bug dans un bugle.
Un bugle.
Dans un bugle, il faut mettre...
À quoi?
Un bugle.
Une jarre.
Un tchad.
Un tchad.
Ah, je sais pas qu'est-ce que c'est.
Bon, on va dire
un contenant.
Un bol. Un bol. Un bugle.
Une tasse. Avec deux, tu m'as dit de mettre... Luc, tu m'as dit de mettre de la farine avec du lait.
Voilà.
C'est tout. Et après, ça.
Les proportions,
c'est. Faut les mélanger. Je crois que c'est 50 grammes.
Ouais, Luc, il va l'expliquer.
Je vous laisse finir. Non, mais parce que. Après, je vais.
Tu vas corriger.
C'est 50 grammes, je crois.
Alors, continuez, puis après je vais revenir. Hein,
bah, tu m'as dit de mettre d'un bugle.
Est-ce qu'on met de la giboulette dans la béchamel?
Muscade.
La muscade, bah oui.
C'est le poivre. Et après, quand on met dans un bugle, on met dans une casserole pour faire réchauffer, pour ça s'épicir.
Ça s'épicir.
C'est ça, Luc?
Alors, bon, je vais apporter juste quelques modifications.
Je sais pas qu'est-ce que c'est ça, béchamel, mais...
Non, mais c'est elle paraît...
Elle est bizarre.
Elle est bizarre, mais en fait, c'est tout bête. Vous prenez, pour 10 grammes de farine, vous mettez 15 centilitres de lait. Donc, vous faites en fonction de la quantité que vous avez besoin. Vous mettez dans un... Alors, soit un bugle, soit un bol, ou une jatte. Etc. quoi, dans un récipient, même un petit cul de poule, ça marche aussi. Hein. C'est le synonyme du bugle.
Comment dire bugle ?
Voilà, un bugle, mais pourquoi pas. Et donc vous mettez un petit peu de farine que vous mélangez avec un petit peu de lait, et ça fait votre base. Une fois que vous avez votre lait, vous le mettez.
Ça fait une boule ?
Une base, non, c'est une sorte de pâte. C'est pas une boule, c'est un peu plus liquide.
Une boule liquide.
Ah, oh, bizarre, sans béchamel.
Un ovale, alors.
Elle n'est pas finie encore. C'est là. Un ovale. Là, elle n'est pas encore finie. Et vous mettez, en fait, cet appareil dans le lait.
Appareil.
Et vous faites, on appelle, en fait, le mélange lait-farine l'appareil.
D'accord.
Voilà. D'accord. C'est un terme culinaire, etc. D'accord. Mais c'est assez vieux, quand même, hein, comme terme. Mais bon.
Comme,
enfin, bref.
Comme liquide boule, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est vieux comme Mérode, quoi.
Ah, non, c'est vieux comme Cyrus.
Comme vos robes.
C'est vieux comme Cyrus.
Comme Cyrus, voilà.
Comme Cyrus.
Ah, moi, je préfère mon béchamel que chez moi-même.
Mais je l'ai pas fini. Et en fait...
Il a pas eu le temps, mais...
J'ai pas encore fini.
Excuse-moi, Pépu.
Non, je vous en prie.
Et là, la casserole,
en fait, voilà, vous faites chauffer le lait avec l'appareil, et à un moment donné, quand ça va commencer à bouillir, ça va se durcir comme une béchamel classique. Ouais, et là, vous pouvez rajouter un petit peu de muscade, du sel et du poivre, et voilà. La seule différence, et puis vous mettez où vous voulez, hein. Après vous la mettez où vous voulez.
Ouais, ça dépend.
Et du coup, bah, ça vous fait une béchamel sans beurre.
Mais la casserole, elle crame pas.
Non.
Si on fait pas roussir avant.
Faut toujours.
Faut pas du roux dedans.
Non, même pas besoin.
Pour qu'on essaye.
Voilà, on va essayer.
On va essayer,
tester,
on va voir,
puis,
on va tester.
Et n'hésitez pas à me renvoyer sur Facebook vos impressions, etc., vos avis.
Si c'est pas bon, vous remboursez.
Ce sera bon. Je n'ai aucun doute là-dessus.
On n'oublie pas la ziboulette quand même.
Mais faire ça mercredi, on va voir. On va faire ça le béchamel comme ça. Mercredi.
Oh, on fait ça.
On fait ça. Très bien. Je passe mercredi pour goûter tout ça.
Bon appétit à tous.
Merci.
Bon appétit, bien sûr.
Voilà.
On arrive déjà à la fin de notre émission.
Oh,
en même temps, en faisant durer une recette pendant un quart d'heure, avec un débat sur la béchamel et la ziboulette. Voilà, donc c'était super sympa. Merci à tous d'avoir participé. On va marquer bientôt une dernière pause musicale. Juste pour information, la prochaine émission, la 73e, sera diffusée le samedi 26 novembre à 13h et le dimanche 27 novembre à 15h. On va se quitter pour la pause musicale sur un chanteur qui nous a quitté le mois dernier, qui s'appelait Coolio, c'est ça, Thomas ?
Oui.
Coolio. Des fois, prononciation, j'ai un peu de mal aussi. Et c'est Gangsta
Paradise.
Bonne écoute à tous.
Bye bye.
À bientôt.
Au revoir.
Bye bye.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the night.
Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the strength, so I gotta be down with the hood team.
Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise.
Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
I've been spending most of